Bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture consacrée aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, nous tentons de comprendre comment les réseaux sociaux changent, transforment, impactent les mobilisations sociales et la couverture des manifestations. À quelques jours du 7 mars, prochaine journée de contestation autour de la réforme des retraites, nous verrons comment ils participent à la coordination et à l'engagement de la jeunesse. Au-delà de Facebook, qui a joué un grand rôle dans le mouvement des Gilets jaunes, quelles sont les nouvelles plateformes de la contestation, de Twitch à TikTok? Dans quelle mesure l'instantanéité des médias sociaux participe-t-elle à une plus grande visibilité des violences policières? Enfin, quelle place pour les médias traditionnels dans ce paysage et comment se réinvente le journalisme d'immersion depuis Nuit Debout qui a initié le genre en 2016? Quelles en sont également ses limites et critiques? Beaucoup de questions et trois invités pour y répondre. Rémi Buzyn, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste pour le Média Brut depuis 2016. Vous vous êtes fait connaître pour avoir couvert avec votre smartphone les attentats du Bataclan et le mouvement Nuit Debout. Vous pourrez donc nous livrer votre expérience de journaliste de terrain connecté, analyser son évolution et répondre aux critiques qui vous sont parfois adressées. Dans la distance artoise, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendante et streameuse, coordinatrice avec d'autres du projet Piquet de Stream, un collectif qui soutient sur Twitch les manifestants depuis le mois de janvier. Vous pourrez revenir sur la politisation de cette plateforme, la spécificité de l'engagement sur Twitch et la mise en valeur aussi des mobilisations hors de Paris. Enfin en studio avec nous, Édouard Boutet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur de recherche au sein de l'unité CERES à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Vous pourrez revenir sur le rôle des réseaux sociaux dans la constitution et la coordination des mobilisations sociales et analyser aussi sur ces plateformes la médiatisation des violences policières. Au programme également les nouvelles du meilleur des mondes et la chronique de Marcus Dupont-Bénard, journaliste chez Numérama, qui nous expliquera comment la science-fiction se rebelle, elle aussi. Notre émission s'écoute en direct sur France Culture, en podcast sur l'application Radio France et se regarde aussi sur la chaîne Twitch de France Culture, toujours, où vous êtes nombreux de plus en plus à nous regarder, ça nous fait plaisir. Allez, le meilleur des mondes, c'est parti.
On a un master, on se dit on va pas être super bien payé pendant toute notre vie et maintenant on nous dit en plus vous n'allez pas être super bien payé à la retraite. Donc là on se dit que c'est vraiment injuste parce qu'il n'y a pas de raison.
Le son est nickel, ok. David, il est en manif et en manif, vous savez, les flux sont un peu fluctuants.
Voilà, donc les syndicats ont pris leur position là-bas. J'avoue que je ne connais pas le cortège, je ne sais pas. J'imagine que c'est pas six nations. Pour l'instant, c'est quand même très calme.
Poussé d'abord par le mouvement contre la loi travail, les Nuits Debout se veulent en réalité plus larges, plus ambitieux.
La loi El Khomri a juste été un prétexte. Et pour moi, personnellement, c'est que pour mes amis qui sont là, et même pour les gens que je retrouve ici, c'est un ras-le-bol général.
Vous êtes en train de procéder à un blocage de voie. Vous levez tout seul ou pas? Vous le voyez, vous ne voulez pas le lever, on va devoir vous lever par la force.
J'ai envie que mon pouvoir d'achat change. Je veux pouvoir payer autre chose à mes gamins que des pâtes et des pommes de terre. Si ça bouge pas aujourd'hui, ça bougera demain. Si ça bouge pas demain, ça bougera après-demain. Je reviendrai tous les jours s'il faut.
Chaque réseau social a sa spécificité, sa grammaire, son public et sa puissance virale. Alors avant de plonger dans les contestations actuelles, on peut retourner aux sources avec vous, Rémi Buzyn, et le mouvement Nuit Debout en 2016, dont on a entendu d'ailleurs un court extrait, mouvement contre la loi travail, des gens qui se regroupaient Place de la République à Paris et ailleurs aussi en France. Vous avez suivi de l'intérieur ce mouvement-là avec votre iPhone à l'époque. Est-ce que c'était là un peu le début d'une nouvelle forme, quelque part, de journalisme?
C'est difficile à revendiquer, mais...
Non, mais je comprends.
Je dirais d'un point de vue technologique, oui. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à maintenant, la retransmission en direct par l'image et par le son, elle était réservée aux télévisions, mais pour des moyens techniques. C'est-à-dire qu'il fallait une caméra, un cas régie, qui l'envoyait dans une régie, qui la retransmettait après. Donc c'était des coûts faramineux pour un simple citoyen comme j'étais à ce moment-là. Et bah, en fait, il y a l'arrivée, les smartphones évoluent de mieux en mieux. On est à l'ère de l'iPhone 6-7 à ce moment-là. Et je commence à voir cette application qui s'appelle Periscope, avec tout le potentiel que ça peut avoir avec, de retransmettre un événement l'événement en direct, d'être en lien avec l'audience, c'est-à-dire la chance d'avoir les commentaires qui, en temps réel, peuvent interagir avec vous et du coup créer une conversation avec les gens que vous interrogez, mais aussi ceux qui regardent, qui écoutent. Et
ce qui a déjà une première différence très marquante avec justement les directs télévisuels dont vous parliez, c'est-à-dire qu'effectivement là, c'est un outil qui vous permettait de faire du direct comme, on va dire, une chaîne d'information continue, ouais. Sauf qu'elles n'ont pas l'interactivité que Periscope vous permettait.
Interactivité, oui, parce qu'il y a les commentaires, et du coup, par exemple, quelqu'un va me dire, est-ce que tu peux montrer ça? Bah, j'essayais de le faire dans la mesure du possible, ou de répondre à certaines questions que les gens pouvaient se poser sur l'événement que je couvrais. Puis aussi, une deuxième nuance, c'est le temps. C'est-à-dire que quand on appuie sur le bouton direct, j'ai pas un panneau publicitaire qui va me tomber sur la tête dans 20 minutes ou un impératif d'une autre émission juste après. S'il faut faire 4 heures de direct, on prend une grosse batterie rechargeable et on essaye d'être en forme pour tenir. Et c'était un peu ça à l'époque de Nuit Debout, parce que justement, il y avait ces événements qui étaient sur la continuité, et ce support, ce live permettait de s'adapter à l'événement. Et d'habitude, c'est un peu l'inverse. Je veux dire, par exemple, dans l'émission où on est, vous êtes obligé de vous adapter à un timing, à des créneaux, à bien respecter, c'est normal. Mais sur le live, il y a une sorte de liberté où je me dis, bon, bah, s'il faut faire 3h30 parce que cet événement le nécessite, on doit le faire, on peut le faire. Et c'est ça qui est bien.
Et vous l'avez fait effectivement avec plusieurs heures de live sur plusieurs journées, sur plusieurs semaines, jusqu'à avoir presque 80 000 personnes à un moment donné qui se sont connectées en direct avec vous sur cette application Periscope qui depuis a disparu. Mais donc c'était déjà une audience très importante pour, comme vous le dites, un simple citoyen qui prenait son téléphone et qui a quelque part découvert ou appris le journalisme sur le terrain à cet endroit-là, à ce moment-là.
C'est ça, parce que moi j'étais pas encore journaliste à ce moment-là. C'était mon rêve d'enfance, hein, si on parle un peu du parcours. Et c'est vrai que ce jour-là, ce live monté à 82 000 personnes en simultané, ce qui est incroyable. Hein. Moi, je regardais l'audience sur mon téléphone, ça montait de 100, de milliers en milliers, en dizaines de milliers, jusqu'à jamais s'arrêter. Et oui, il se passait quelque chose assez fort, parce que sur cette place de la République, depuis quelques jours, il y avait ce hashtag Nuit Debout, où beaucoup se demandaient qu'est-ce que ça voulait dire. Et mon idée, mon but justement en y étant, c'était de raconter ça, d'essayer de comprendre pourquoi il y avait des gens qui étaient là en train de discuter d'un modèle démocratique différent, en pleine tension démocratique, puisqu'on était à l'époque, on se souvient, du 49-3 qui avait été mis sur la table par Manuel Valls et son gouvernement. Et du coup, l'idée, c'était de voir cette audience qui était très présente pendant des semaines. Et c'est là aussi où je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose, c'est-à-dire qu'il y avait une attente aussi sur ce type de format-là, et j'ai continué à le faire, et j'ai eu la chance de pouvoir continuer à le faire ensuite à Brut en juin ce média en 2016.
Voilà, donc une technologie qui rencontre une attente qui justement vient rencontrer cette technologie. À l'époque, je le disais, donc l'application Periscope qui a été rachetée par Twitter et qui ensuite a disparu et qui permettait donc un direct avec une interactivité qui est aujourd'hui maintenant proposée par Twitch, proposée par TikTok, proposée par de nombreuses plateformes. On aura l'occasion d'y revenir. Proposé également par Facebook, mais si ce n'est pas forcément l'usage premier qu'on peut faire de Facebook, on va poursuivre justement de Nuit Debout au Gilet jaune. On va aller 2 ans après, 2018, ce mouvement des Gilets jaunes où Facebook a joué un rôle majeur, Edouard Boutet. Quel est-il réellement ce rôle joué par Facebook dans ce mouvement des Gilets jaunes que, évidemment, Rémi a aussi suivi?
Oui, alors effectivement, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui s'est totalement emparé d'Internet et plus particulièrement de Facebook. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est quelque chose sur le long cours, c'est-à-dire que donc les Gilets jaunes, pour rappel, le premier jour de mobilisation, c'était le 17 novembre 2018. C'est pas quelques jours avant, en fait, que ça commence. En fait, on remarque qu'il y a des groupes Facebook qui se créent déjà début janvier 2018 autour de la mobilisation contre le passage aux 80 km/h qui était voulu par Édouard Philippe. Et il y a eu plein de groupes comme ça qui ont commencé de très localisés, qui étaient associés à des numéros de département, qui ont commencé à se développer. Et ça n'a pas très bien marché, sauf qu'il y a eu un véritable regain au moment où il y a l'annonce de l'augmentation annuelle de la taxe sur le carburant. Et à partir de ce moment-là, pareil, c'est plein de petits groupes locaux qui sont créés, plein de petits groupes, plein de petits événements. C'est une autre fonctionnalité de Facebook qui a été mobilisée par les Gilets jaunes. Et en fait, dans ces espaces-là, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, ça a été des espaces de recrutement. Il y avait des personnes qui commençaient à organiser ce blocage du 17 novembre. Alors on cherche des forces vives pour se mobiliser, pour tracter, pour imprimer ces fameux tracts, pour les diffuser. C'est un espace où toute l'information autour de l'organisation de la mobilisation circule, en partie parce que ces organisateurs veulent aussi faire attention à ce que certaines informations ne soient pas diffusées afin de ne pas mettre en péril la mobilisation.
D'ailleurs, ça passe un peu sous les radars à ce moment-là, justement, tous ces groupes Facebook, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont très puissants, mais il y avait toute une image qui collait à Facebook à ce moment-là où on disait que c'était un réseau qui était un peu en train d'être lâché par les jeunes, qui tombe un peu en désuétude. Et pourtant, il reste quand même puissant, il reste encore très mobilisateur, surtout sur une catégorie sociale qui utilise très fréquemment Facebook, qui a été une grande partie de la base justement de ce mouvement des Gilets jaunes.
Ah oui, totalement. C'est ce que Dominique Pasquier, la sociologue, appelle l'Internet des familles modestes. Effectivement, dans son enquête, ce qu'elle montre très bien, c'est que les familles qu'elle étudie vont avoir un usage particulier de Facebook. Et elle dit dans plusieurs entretiens ensuite, quand les Gilets jaunes ont commencé, c'était en fait typiquement ces enquêtés dans le travail qu'elle avait mené qui se sont mobilisés. Donc effectivement, c'est passé sous les radars jusqu'à ce qu'il y ait ces super groupes qu'on connaît beaucoup plus avec Éric Drouet, avec Priscilla Ludowski, avec...
Avec des incarnations effectivement à ce moment-là qui vont se rendre visibles.
Exactement, et dont le rôle, eux, justement, ce qui va être occupé, c'est d'essayer de coordonner l'ensemble de ces mouvements locaux pour passer d'une mobilisation locale à un mouvement de dimension nationale. L'enjeu, c'est de bloquer le pays au même moment. Et donc, ces groupes-là vont se retrouver très rapidement avec des centaines de milliers de personnes en leur sein, justement dans le but de cette coordination-là.
Alors voilà, on va donc retenir bien le terme de coordination qui a été le rôle clé de Facebook sur ce mouvement des Gilets jaunes. Je franchis encore quelques années et on arrive sur le mouvement actuel que l'on vit en ce moment de la réforme des retraites, où c'est un autre réseau qui prend aussi sa part. Il s'agit de Twitch avec Artoise qui va nous en parler, qui est à distance avec nous, qui coordonne justement le projet Piquet de Stream. Est-ce que Artoise, déjà, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que Piquet de Stream?
Oui, alors en fait, Piquet de Stream, c'est une initiative qui est née en quelques jours, pour ne pas dire quelques heures, avec l'initiative de plusieurs streamers et streameuses. Pour beaucoup, je pense que il y en avait déjà qui connaissaient donc le recon du stream, qui avait donc été mis en place il y a 2 ans avec les mêmes objectifs. Nous, on a eu l'envie de reprendre un peu cet héritage et de proposer quelque chose de nouveau avec des nouvelles figures. Des nouveaux incarnants, etc. Et voilà, le but, ça a été vraiment de s'organiser, de se dire, il y a une grève qui arrive. Là, c'est quelque chose de super important. On sent que la mobilisation, il y a un regain de la mobilisation, un peu comme il y avait eu avec les Gilets jaunes, etc., autour de la réforme des retraites, avec cette nouvelle problématique. Et donc, on s'est dit, ça a déjà fonctionné il y a 2 ans. Nous, on avait donc cette idée-là, du coup, de se dire, on va nous aussi s'investir dans la lutte en utilisant nos compétences, en utilisant notre connaissance de Twitch et la manière dont on investit la plateforme, en temps normal, pour cette fois-là. Non pas avoir des dons, récolter de l'argent pour nous, mais bien pour une cause particulière. Et donc, c'est pour ça que les dons qu'on a pu récolter pendant tout ce mois de janvier ont pu profiter à la caisse de grève donc de la CGT Infocom.
Et pour bien comprendre, Artoise, pour ceux qui ne sont pas forcément spécialistes de Twitch, je sais qu'ils sont aussi quelques-uns en ce moment à nous écouter, donc c'est un collectif de streamers, donc des gens qui sont plutôt habitués à pratiquer le jeu vidéo en ligne avec une communauté, qui sont donc mobilisés dans différents endroits en France pour pouvoir faire vivre ce mouvement un peu comme des correspondants à l'intérieur des différents cortèges. Et comme vous l'avez dit, ce qui est une pratique chez Twitch de récolter en fait de l'argent, et là cet argent est donc mis à disposition de la lutte et donc un soutien. Et pour aller encore plus loin, pour bien comprendre Piquet de Stream, je vous propose d'en écouter un extrait.
Salut tout le monde, salut Piquet de Stream, salut le chat, comment ça va? Alors moi c'est Nina, je suis avec Betty qui est derrière la caméra. Elle peut lire le chat, elle peut vous parler, donc elle fera des retours sur ce que vous dites. Donc ici on est à Saint-Brieuc, c'est la préfecture des Côtes d'Armor dans le nord de la Bretagne. Et on est sur la place de la Liberté, c'est ça? Et il y a pas mal de monde. Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Ma foi, oui, j'ai marché pas mal, je viens de Ploufragan.
C'est vrai?
À pied, on est venus à pied tous les deux. Bon, j'ai pris mon bâton parce que j'ai un peu mal au bas du dos, quoi.
Ouais.
Mais bon...
Ça va aller, vous allez rester jusque ce soir.
Bien, surtout pour les enfants.
C'est vrai.
Parce qu'ils sont déjà fatigués, 42, 50 ans, ils n'en peuvent plus. Donc voilà.
Voilà, une femme pas loin de la retraite qui se bat justement pour la retraite de ses enfants. Artoise, comment on se distingue justement d'une chaîne d'information en continu quand on tient comme ça l'antenne, le petit jargon journalistique, c'est-à-dire meubler une antenne? Et est-ce que vous aussi vous meublez, parce qu'il faut la tenir cette antenne pendant des heures? Qu'est-ce que vous y faites? On a bien compris qu'il y avait des correspondants qui étaient à droite à gauche, enfin ce qu'on peut appeler des correspondants, donc il y a une importance qui est donnée sur la mobilisation dans toute la France, l'importance du territoire, mais comment vous la meublez cette antenne?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous disiez juste avant qu'on était plutôt habitué aux jeux vidéo. En fait, c'est pas forcément le cas. En fait, chacun en fait est habitué à streamer sur sa chaîne, et c'est d'ailleurs grâce aux compétences et aux habitudes de streaming d'émissions de chacun qu'on arrive à meubler hein, les directs qu'on a pu faire justement aux quatre coins de la France, puisque bah chacun en fait vient un petit peu de villes différentes. On a pu l'organiser pendant les manifestations, mais ça c'était seulement deux trois jours pendant tout le mois. Le reste du temps, bah en fait chacun vient et propose un peu ce qu'il a envie de faire. Ça peut être du jeu vidéo, comme vous le disiez. Ça peut être aussi des animations, parfois, voilà, des soirées. On a organisé des espèces de jeux entre nous, en plateau, enfin, avec les moyens qu'on avait. Et puis, bah, moi, par exemple, qui ai l'habitude sur ma chaîne de faire beaucoup d'actualités, puisque bah, voilà, c'est dans le cadre de mon travail de journaliste, voilà, j'ai essayé de parler de la réforme des retraites avec l'angle féministe que j'essaye toujours d'avoir sur ma chaîne. Et en fait, ce qui était cool, enfin, ce qui était bien, c'était que chacun, en fait, pouvait un peu apporter ce qu'il voulait. Et donc, il y en avait un peu pour tous les goûts aussi, voilà, ceux qui préféraient s'informer sur les luttes sociales, sur l'histoire des réformes des retraites, ceux qui préféraient plutôt se détendre devant du jeu vidéo, etc. On essayait de pas uniquement meubler autour de la mobilisation, parce que ça pouvait être vite redondant quand on fait 8-10 heures d'antenne par jour, quoi.
Exactement, ça peut être parfois redondant, ce qu'on peut vivre de temps en temps justement sur les chaînes d'information en continu qui fatiguent un peu. Rémi Buzine, pourquoi ne pas avoir investi Twitch, vous qui êtes un spécialiste maintenant des réseaux sociaux, vous êtes je le sais sur TikTok beaucoup avec Brut, mais pourquoi pas Twitch?
Il n'y a pas forcément une réponse négative de se dire pourquoi pas un jour. C'est vrai. Après c'est vrai que on a remarqué que Twitch était quand même plutôt investi par des personnes, par des streamers que par des médias. Et que parfois en tant que média c'est plus compliqué d'y rentrer. On a vu certains médias qui ont des expériences parfois un peu douloureuses. Donc c'est vrai que pour l'instant, voilà, c'est aussi un choix d'investissement des plateformes. Les lives ont été essentiellement sur Facebook pendant un long moment, pendant près de 5 ans et demi. On voit qu'aujourd'hui il y a une migration du public qui est quand même de plus en plus sur TikTok. Et depuis quelques mois on a investi de plus en plus la plateforme. On a développé aussi une application interne avec l'application Brut. Donc on essaye voilà, de travailler aussi des solutions multiplateformes. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas un jour, mais ça n'a pas forcément été une priorité jusqu'à maintenant. Pour diverses raisons, mais notamment celles que j'expliquais au début de difficultés parfois pour un média de s'y implanter.
Justement, Edouard Boutet, par rapport à Twitch, il y a eu une politisation de la plateforme de Twitch et justement ce piquet de stream y participe. Comment elle s'est opérée justement cette politisation de Twitch?
Alors effectivement, à l'origine, Twitch est dédié aux jeux vidéo, hein, c'est même sa raison d'être, puisque à la base c'était une annexe d'un autre site web qui s'appelait Justin TV, qui faisait du live casting, donc on filme sa vie quotidienne. Effectivement, il y a une vidéo en direct et il y a un chat et on peut interagir par ce biais-là. Et en fait, petit à petit, les jeux vidéo ont pris énormément de place sur cette plateforme. Donc il y a une autre plateforme qui est née, qui est Twitch. Et en fait, c'est après le rachat par Amazon en 2014, donc à partir de 2015, où petit à petit, il y a de plus en plus de catégories qui sont acceptées sur Twitch. Musique, discussion en tout genre. Et c'est en 2018 que la catégorie politique fait enfin son apparition. Alors, il y avait quand même déjà des contenus politiques qui existaient avant. Je pense notamment à tout ce que faisait Jean Massier avec sa chaîne Acropolis.
Mais cette vulgarisation, effectivement, de la vie parlementaire.
Et exactement. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que il ne vulgarisait pas seulement la vie parlementaire, il jouait aux jeux vidéo en le faisant. Donc il était en train de répondre au chat qui lui posait des questions, lui qui était spécialiste de cela puisqu'il avait été attaché parlementaire. Et donc, voilà, ça permettait aussi de garder les codes de la culture.
De faire aussi une passerelle, donc de garder les codes effectivement du jeu vidéo de ce public-là et de l'amener justement sur un autre.
C'est ça, et c'est quelque chose qui est resté, qui reste toujours aujourd'hui et qui permet aussi à la réussite de certains types de contenus politiques ou informationnels. Et d'ailleurs, ça peut répondre aussi à pourquoi des fois certains médias ne parviennent pas à s'implanter sur la plateforme, parce que comme si d'une certaine manière, pour le public présent sur la plateforme, ils n'avaient rien à faire là, puisqu'ils apportent une culture qui vient d'ailleurs sans s'adapter à ce qui est déjà présent dans la communauté présente sur Twitch.
Artoise, vous avez une réaction ?
Oui, c'est intéressant ce qui était dit, et d'ailleurs je suis totalement d'accord avec ce que disait Rémi juste avant par rapport au fait que c'est difficile pour les médias en fait d'investir Twitch aujourd'hui, et on le voit avec Jean Massier, en fait Twitch ça plaît parce qu'il y a une incarnation, et nous c'est un petit peu ce qu'on a recherché aussi avec le piqué, c'est-à-dire que on a proposé une couverture hein, rien qu'en manifestation etc. qui pourrait ressembler un peu à ce que font les journalistes pour des chaînes de télé etc. Mais nous en fait c'est que en fait à travers chaque streamer et streameuse, il y a aussi une personnalité que les gens parfois viennent rechercher avec des particularités qui sont pas forcément retranscrites dans les médias. Et donc, je pense aussi que c'est ça qui fait que c'est plus facile d'investir la plateforme en tant que figure indépendante qu'en tant que média. Vraiment, ça, c'est à souligner.
Et ce que vous soulignez aussi dans l'apport que Picketstream peut offrir, c'est quand même une plus grande implantation dans les régions. Alors même si sur les chaînes d'information en continu, on a des correspondants à droite à gauche, vous, il y a aussi une autre manière de faire vivre ces territoires, ces mobilisations partout dans la France.
C'est super intéressant parce que la plupart des gens en fait ne viennent pas du tout de Paris et du coup on a pu aller en manifestation parfois même dans des petites villes de Bretagne, etc., où on a porté du coup un flux, et ça on savait que aucune autre chaîne en fait de télé le faisait, et donc on se disait qu'au moins on avait une certaine forme de petite exclusivité là-dessus, en plus de pouvoir aussi retransmettre au sein du cortège parisien, lyonnais, lillois, etc. Donc oui, cette pluralité, elle fait la différence, je pense, et elle permet d'apporter quelque chose d'autre, même si évidemment on se revendique pas d'une supériorité ou de remplacer quoi que ce soit, on apporte quelque chose de nouveau.
Effectivement, c'est juste une alternative, mais en aucun cas une volonté de vouloir supplanter ni remplacer. Rémi Buzine, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes sur TikTok maintenant, on l'a compris, chaque réseau social a son esthétique, sa grammaire, ses codes. Donc à part, on a bien saisi que vous êtes sur TikTok parce que c'est là où l'audience se trouve aujourd'hui, donc c'est le propre d'un média, c'est de parler quand même à une audience. Mais au-delà de ça, comment l'esthétique de TikTok, comment la manière justement de pouvoir vivre ce réseau joue ou interfère dans votre couverture des événements ?
En fait, ma narration n'a pas changé de Periscope à Facebook en passant par TikTok, parce qu'en fait, c'est le support, c'est la façon de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une interface de live qui me permet en live en continu. J'ai toujours les commentaires qui sont présents. Et puis, si on allait même plus profondément d'un point de vue sociologique, parce que c'est vrai qu'on va toujours avoir tendance à dire TikTok, c'est le réseau des très jeunes. Mais ce n'est pas que le réseau des très jeunes. Et on voit aujourd'hui de plus en plus l'audience de Facebook, qui est un peu plus âgée, un peu plus confirmée, à être de plus en plus sur TikTok. Et une France qui aurait peut-être tendance à ressembler à celle dont on parlait tout à l'heure, avec France des Gilets jaunes, France rurale, France des territoires de région, parce qu'on le voit beaucoup dans les commentaires, dans les retours de statistiques qu'on peut avoir. Et c'est là où c'est intéressant. Donc moi, je suis dans une forme de continuité, c'est-à-dire que mon outil, c'est de me dire que c'est le live, c'est de contextualiser ce qui se passe en direct, de donner la parole aux gens, de prendre en compte les commentaires, et sur TikTok, c'est une forme de continuité. Hein.
C'est une forme de continuité, effectivement, avec la notion du live, parce que finalement, vous faites le même travail, c'est-à-dire ce qui fait la spécificité, on l'a compris, c'est un live, mais un live connecté, live connecté en interaction. Après, sur TikTok, il y a juste la manière dont ce que vous allez pouvoir tourner va être peut-être réutilisé dans des formats plus courts, avec une autre grammaire que celle de TikTok, qui peut parfois, d'ailleurs, être pointé du doigt, on l'a vu dans d'autres événements où on parlait de TikTokisation des choses avec un côté un peu divertissement, un peu dans des formats courts. Ça pose peut-être cette question.
J'ai eu la même réflexion, je me souviens au début quand j'avais commencé sur Periscope, parce que souvenez-vous à l'époque, Periscope était connu parce que Serge Aurier avait insulté son entraîneur, parce que c'était des défis où des gens disaient s'il y a 100 personnes sur le live, je vais frapper quelqu'un dans la rue au hasard. On avait les mêmes dérives qu'on voit aujourd'hui à l'époque avec certains défis qui aujourd'hui sont vus sur TikTok. Moi, je pense que j'essaye vraiment de m'extraire de tout ça, et beaucoup aussi d'autres personnes aussi, c'est de se dire oui, il y a des choses parfois qui sont pas terribles, mais c'est le propre de l'être humain et pas simplement de la plateforme. Et nous, on se dit, il y a une plateforme qui est existante, servons-nous de ces technologies-là, du public qui peut la regarder, pour en faire des choses qui soient intelligentes, connectées et avec de l'information. Donc moi, tout ce qui est autour, j'essaye vraiment d'en faire abstraction. Et en soi, vraiment, pour moi, rien n'a changé. C'est vraiment une question de support qui est différent. Mais moi, dans la façon de conduire mes lives, c'est exactement la même. Au niveau des commentaires, j'ai aussi une forme de continuité dans la façon dont les gens commentent. Même à l'inverse, je dirais en plus que aujourd'hui, l'audience des lives est encore peut-être plus importante, parce qu'on voit que sur TikTok, le live est poussé de façon très forte. Et la différence qu'on peut avoir avec Facebook, où vous avez un public très fidèle, parce que c'est beaucoup propulsé au début aux gens qui vous suivent. Sur TikTok, on a quand même la notion de propulser dans ce qu'on appelle, pour ceux qui n'ont pas forcément TikTok, pour expliquer à ceux qui écoutent ce soir, il y a deux onglets. Il y a un onglet des comptes que vous suivez et un onglet qui s'appelle Pour toi. Et dans cet onglet qui s'appelle Pour toi, c'est un onglet algorithmique qui prend en compte un peu les vidéos que vous aimez. Par exemple, si vous regardez beaucoup de football, beaucoup de vidéos de danse, l'algorithme va détecter que vous aimez bien ces vidéos-là. Et ce que je veux dire, c'est que ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui qui ne sont pas forcément des abonnés à Brut. Donc on a une différence peut-être de ce côté-là, c'est qu'on avait une base fidèle qui, je pense, existe toujours, mais aujourd'hui, en plus, des gens qui se retrouvent à pas forcément connaître ce que fait Brut au quotidien, à découvrir notre format de support en live. Et donc, il y a peut-être ce travail-là de faire découvrir un peu entre guillemets, savoir-faire de couverture des événements en direct.
Grâce, effectivement, à l'interface et à l'algorithme de TikTok qui, on le sait, est assez présent, puissant, voire assez incroyable pour employer ce terme, et puis parfois inquiétant si on veut l'employer à un autre. On sait que la vérité se situe forcément entre les deux. Édouard Boutet, on n'a pas parlé encore de Twitter. Vous, il y a une spécificité à Twitter. Vous parlez d'une visibilité extra, de l'extra entre-soi. Expliquez-nous.
Oui, alors en travaillant sur les Gilets jaunes, j'ai notamment travaillé sur la manière dont leur répression policière a été thématisée, a été mise en image sur les plateformes Facebook et Twitter. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes personnes qui s'investissent dans ces deux espaces, pas du tout de la même manière. D'un côté, sur Facebook, ce qu'on constate, c'est le fonctionnement en groupe, en fait. Il y a un espace où des gilets jaunes sont réunis entre eux et il y a quasiment personne d'autre qui est dedans, à part quelques personnes qui peuvent effectivement être intéressées et venir regarder. Mais en tout cas, le gros des groupes est composé de gilets jaunes. Ça, c'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup, c'est, vous savez, le concept des bulles de filtre, pour dire que les plateformes vont nous enfermer dans un entre-soi idéologique.
Ils vont prêcher que des convaincus et qui ont tendance à radicaliser justement les opinions. Exactement. Parce qu'on est face à des gens qui nous ressemblent. Et ça, vous d'ailleurs, vous contestez un petit peu, enfin, vous parlez d'un effet plutôt vertueux, disons plus positif, des bulles de filtre.
Oui, exactement. En fait, les bulles de filtre, c'est quelque chose dont on va parler de façon critique. En général, on va dire que c'est néfaste pour la démocratie, et on va entendre ici que la démocratie, c'est d'être confronté à un pluralisme d'idées, à un pluralisme d'opinions pour pouvoir se forger son propre avis sur les questions. Et donc si on n'est pas confronté à des choses auxquelles on n'adhère pas, eh bien c'est néfaste pour la démocratie. Cependant, il y a d'autres manières de concevoir la démocratie, et par exemple, dans la sociologie des problèmes publics, on va estimer que c'est un espace qui doit justement permettre de définir et de venir résoudre ces problèmes publics-là. Quand les Gilets jaunes se retrouvent confrontés à la problématique des violences policières, eh bien en fait, heureusement qu'ils ont un espace dans lequel ils peuvent en parler entre eux, simplement pour dire « nous avons ce vécu-là, nous vivons cela comme une dérive, et du coup, nous la contestons. Mais si cet espace-là d'entre-soi n'existe pas, et c'est tout ce qui vient des théories féministes matérialistes...
De la non-mixité qui permet effectivement, dans des zones de protection, des safe zones, comme on dit en mauvais français, pour pouvoir avoir une libération de la parole et ne pas être sur le joug du dominateur.
Voilà, c'est exactement ça. Mais donc, la limite à cela aussi, c'est qu'on a une visibilité intra-communautaire, c'est-à-dire ça reste dans l'entre-soi, et ce qu'on est en train de raconter, ce qu'on est en train de dénoncer, ce sur quoi on devient expert... Eh bien, on ne le raconte qu'à soi-même, en fait. Mmh. Et donc, c'est là que c'est intéressant. C'est en changeant de plateforme, quand on va sur Twitter, qui a un fonctionnement totalement différent, où les interactions sont pensées de manière totalement différente, vous allez pouvoir beaucoup plus diffuser des idées, diffuser des images, diffuser des événements qui se sont produits au regard d'autres personnes qui ne font pas partie de votre communauté. D'après les études que j'ai pu mener, eh bien, on remarque que les bulles de filtre sur Twitter sont bien moins présentes qu'elles ne peuvent l'être sur Facebook. D'où des fonctionnements de visibilité extrêmement différents.
Voilà, comme ça, effectivement, ça permet... Et puis d'ailleurs, je crois que les bulles de filtre commencent aussi à être un peu contestées par la recherche en ce moment. Donc on revient justement sur cette théorie. On aura sans doute l'occasion d'en reparler dans cette émission. Artoise, j'ai une question pour vous, même si je sais que vous vouliez prendre la parole peut-être en réaction sur un sujet précédent. On a beaucoup parlé justement avec l'usage des réseaux sociaux, puisque là, on a fait un petit panorama presque complet de Periscope à Facebook en passant par Twitter et bien sûr TikTok, pour parler d'une jeunesse qui serait d'une forme de militantisme de canapé. Ça avait été dit à un moment donné, c'est-à-dire qu'on like tranquillement sur son canapé, mais qui n'est pas un réel engagement. Vous pensez que cette formule est un cliché ? Quelle est votre opinion par rapport à ça, vous qui êtes parfois sur le terrain ou parfois derrière votre ordinateur pour rendre compte du terrain ?
Bah, c'est hyper énervant parce que en fait on se rend compte que en fait n'importe qui a intégré même nous notre initiative ou d'autres initiatives de la sorte en fait c'est un investissement jour et nuit et comme on le répétait tout à l'heure par rapport au fait que on n'est pas limité par le temps, donc on peut faire des choses qui sont beaucoup plus longues et forcément ça nous prend davantage aussi sur notre temps libre, donc on est on est peut-être chez nous bien que en fait on va aussi en manifestation et on le fait aussi depuis sur le terrain. En fait, on a la possibilité de choisir en fait comment on veut se mobiliser derrière notre ordinateur. Et c'est pas parce qu'on va pas sortir forcément que on est dans un militantisme de canapé. En tout cas, pour ce qu'il en est du piquet de stream, franchement, voilà, on s'est investi. Et je pense aujourd'hui qu'il faut juste comprendre que, bah, en fait, il y a plein de moyens de se mobiliser. Nous, on utilise Twitch, avec, comme on le disait, hein, avec nos compétences pour un peu, donner du sens aussi à ce qu'on peut faire au quotidien, en tant que streamer, lui donner un peu aussi un intérêt en dehors de notre propre intérêt à nous. Mais on n'est pas du tout des flemmards. C'est juste que, moi, je pense à titre personnel que les manifestations, c'est hyper important, mais ça suffit plus. Il faut trouver d'autres moyens aussi pour, permettre aussi que ces mobilisations, elles puissent avoir lieu, que les gens puissent se mettre en grève pour aussi, être dans cette ambition de bloquer le pays, etc. Donc, nous, à notre échelle, on est là aussi pour, apporter, un soutien financier, moral, etc. Et puis, sensibiliser les gens aussi tout à l'heure, hein, parce que, pour revenir aussi à ce qui se disait sur les bulles de filtres, quelque chose que propose Twitch qui est assez innovant, c'est cette idée de raid qui permet aussi d'ouvrir des gens. Donc un raid, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la possibilité pour un streamer d'envoyer l'ensemble de ses visionneurs sur une autre chaîne et donc de faire découvrir aussi comme ça. Et nous, on utilise vachement cette là pour se faire découvrir, pour se faire médiatiser, pour relayer, etc. Donc en fait non, juste on utilise d'autres moyens de se mobiliser, mais on n'est pas du tout dans une flemme ou quelque chose comme ça.
Voilà, un renversement du militantisme de canapé. Vous avez tous beaucoup parlé justement de la contrainte du format. Eh bien à la radio, on en a une contrainte du format. C'est le moment de passer la musique, une musique qui dure normalement 7 minutes, mais qui a été vraiment très pertinemment montée pour qu'elle colle aussi au format de la radio. Une musique qui colle évidemment à notre thème, puisque c'est Manifeste par Orelsan dans Le Meilleur des Mondes.
Quand mon pote Mickey m'a donné rendez-vous sur Paris, il a oublié de préciser dans une putain de manif. Qu'est-ce que je fous dans une putain de manif? Je suis pas concerné par la société, je suis un putain d'artiste. J'ai rien manifesté depuis le lycée, c'est chez les cours la seule idée qui m'ait fait militer. Et si tu veux la vérité, je trouve les manifs flingués. J'y pense en passant au milieu d'un flash mob d'infirmiers, entouré par des beaufs un peu politisés qui sortent les mégaphones pour crier des banalités. Je me dis que si traîner en bande et chanter suffisait, ça ferait longtemps que j'aurais changé le monde. J'arrive pas à capter Mickey qui m'a mis juste un texto. C'est marqué je suis à République, je suis pas loin du métro. Entre parenthèses, je suis avec France, la sœur à Fredo. Entre parenthèses, dis rien, j'essaye de la pécho. Après une grande partie d'Où est Charlie, je retrouve Mickey dans un costume de Spider-Man Wish. Il a les poches pleines de grandes Henken, m'en propose une, je refuse vu qu'il est 11h à peine. Il me fait un clin d'œil discret, montre un fumigène. Je sens grisé par la manif et l'atmosphère qui règne. Les CRS, les barricades, les grandes rues parisiennes. Ça l'excite, il a l'impression d'être dans BFM. Je lui dis que je comprends pas pourquoi il regarde cette putain de chaîne, alors qu'il me dit tout le temps qu'il mente et qu'il lui fout la haine. Il me dit qu'il la met juste en fond, ça lui fait une présence. Et de toute façon, il fait toujours autre chose en même temps, comme partager des trucs complotistes bas de gamme auxquels je répondais ah ah, alors qu'en vrai je les regarde pas. Je me suis auto-persuadé qu'au fond il y croit pas, que c'est juste que sa vie est moins fade avec un peu de drama. Bref, le cortège va bientôt partir et moi je vais bientôt partir du cortège. Sauf que France nous présente sa copine bonne Mathilde. Mickey croit pas au Covid donc il tente la bise. À peine le temps qu'elle esquive, on marche au son des batteries. Ambiance un bad au Brésil, par des toughers qui ont pas de rythme. Y'a des employés, des profs, je suis dans mes fêtes de famille. Ça crie des slogans nuls sur des ministres ou je sais pas qui. Je suis dans la manif. Je suis dans la manif. Dans la manif. Wow. Hey, je crois que Mickey est bien foncé vu qu'il s'en prend une trottinette. Mathilde en fait une story, bravo France ton nouveau mec. Dans les cases bleues du Monopoly on manifeste. 16h, rumeurs de sales gosses qu'on pas fait la sieste. Ça traîne des yep, ça court un peu dans tous les sens. Je sais pas si c'est la fumée ou l'atmosphère est devenue dense. Rien n'avance, les gens perdent patience. Les insultes remplacent les chances en rapport avec la retraite à France. Évidemment y'a plus de respect des gestes barrières. Juste des mecs qui font des grands gestes et qui jettent des barrières. Une atterrit dans un Franprix juste derrière. Des mecs en cagoule, se rue sur la vitrine pour lui niquer sa mère. Mickey s'engouffre dans la brèche, ressort une minute plus tard à la Fort Boyard, les bras remplis de grandes canettes. J'ai juste le temps de lui dire y'a les flics, qui se fait plaquer par un civil. Mickey lui met une esquive magnifique. Le flic s'écrase comme une merde contre un poteau électrique, se prend les pieds dans sa matraque, ça part en tragicomique. Le flic finit en boule, Mickey lui tège une grande bière dans la bouche. On se réfugie dans la foule. vois le visage du flic déformé par la haine. Je pense qu'il pense au même où Spider-Man le balaye comme une merde. Il doit se dire qu'il bosse pour la France, pas pour se faire humilier par elle. Je me dis que la canette dans la tête, c'était peut-être pas la peine. Je vois Mickey avec son fumigène, qui sent pousser des ailes, qui doit s'imaginer en boucle sur BFM, ou juste il s'imagine rien vu qu'il a bu 15 Ken. J'entends un coup de feu qui part. Mickey dit tube au bon moment, le tir passe à un mètre. Son fumigène de merde s'éteint avant même qu'il jette. Un corps percute le sol près de moi, du sang sort de la tête. Je reconnais France, je me dis qu'elle aura pas sa retraite.
Alors à pas sa retraite, dernier mot d'Orelsan qui avait senti venir justement les turbulences de la civilisation. C'est le titre de son album et ce titre manifeste qui figure comme les nouvelles du meilleur des mondes, pas sur l'album d'Orelsan, mais dans notre émission.
Better, happier, comfortable. Not drinking too much. Regular exercise at the gym. 3 days a week.
Les nouvelles du meilleur des mondes, François Saltiel.
Et comment ne pas ouvrir ce journal sans évoquer le réseau social TikTok en corps à corps avec les institutions européennes et plus globalement avec nos instances législatives. L'Union, la Commission et le Parlement européen ont annoncé l'interdiction de l'application chinoise sur les téléphones de fonction de leurs employés, de peur des risques d'espionnage par Pékin. Sachant que si ces mêmes employés la conservent sur leur téléphone personnel, cette mesure n'aura que très peu d'incidence vu la porosité des données. À l'Assemblée nationale, pas d'interdiction, mais un projet de loi adopté visant à instaurer une majorité numérique à 15 ans et l'obligation pour les réseaux sociaux de mettre en place une solution technique viable de vérification de l'âge. Nouveau problème, car il n'existe pas vraiment de solution idéale de vérification. L'analyse de la reconnaissance faciale, par exemple, engendrerait une nouvelle problématique autour des données personnelles des adolescents. Et faut-il encore le rappeler qu'officiellement, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans, sachant que la moitié, selon les dernières études, la moitié des 10-14 y sont déjà inscrits. Autant faire confiance, d'ailleurs, aux ados pour développer des stratégies de contournement efficaces. En attendant, TikTok tente de faire baisser la pression en développant des nouveaux dispositifs de contrôle du temps d'écran pour les mineurs, comme un petit message d'alerte qui apparaîtrait au bout d'une heure de connexion et disparaîtrait d'ailleurs aussi rapidement après un mot de passe donné par l'adolescent. Un tour de passe-passe qui ne risque pas de calmer la grande vague d'interdiction qui ne rime pas forcément avec bonne solution.
C'est quand t'es jeune, t'en fais beaucoup de conneries. Hein.
Et on reste sur TikTok où pendant cette agitation parlementaire, l'usage continue et prospère, notamment celui d'un nouveau filtre baptisé Bold Glamour, un filtre de beauté censé gommer les défauts du visage pour coller au plus près au canon normatif de la beauté. Bon, rien de nouveau sous le soleil, me diriez-vous, sauf que celui-ci est particulièrement réaliste. Il ne bouge pas lorsque vous passez la main devant votre visage et la performance technique est assez saisissante au point que les journalistes de The Verge, journalistes américains, se demandent si TikTok n'est pas en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour parvenir à un tel résultat de transformation en direct. TikTok ne leur a pas donné sa réponse, mais des millions de vidéos Bold Glamour se propagent sur les réseaux, une tendance qui va certainement amplifier le recours à la chirurgie esthétique chez les 18-34 ans qui sont devenus les premiers clients devant les plus de 50 ans. Vouloir ressembler à tout prix à la version améliorée de soi-même avant peut-être un jour de vivre dans un avatar parfait du métavers. Oui, cette perspective dystopique vous donne sans doute envie de prendre le large. Bah justement, ne quittez pas.
Allez, regarde, hein, beau gosse.
Il est trop beau. Il est trop moche.
Ouais, il est moche.
Il est moche, ouais.
Car pour prendre le large et mieux revenir, je vous propose pour finir les services d'une jeune pousse allemande qui s'appelle Tomorrow Biostasis, qui vend un service de cryogénisation. 60 000 euros pour votre cerveau et 200 000 pour le corps entier. L'idée, c'est d'intervenir juste après votre décès pour vous plonger dans un réservoir d'azote à moins 196 degrés et espérer qu'un jour, quelqu'un soit capable de vous réveiller pour inverser les causes de votre mort. 300 personnes auraient déjà souscrit à cette inédite initiative européenne. On connaissait beaucoup d'acteurs américains sur la matière, mais c'est un premier acteur européen. Comme quoi, l'espoir fait vivre, et la mort aussi. Pas de doute, vous êtes bien dans le meilleur des mondes.
Mesdames, messieurs, nous venons d'apprendre qu'un homme vient d'être retrouvé enfoui dans les glaces depuis 65 ans.
Et nous sommes toujours dans le meilleur des mondes pour questionner le rôle et l'impact des réseaux sociaux dans les mobilisations sociales. Nous sommes en compagnie d'Artoise, la streameuse qui appartient au collectif Piqué de Stream. Nous sommes avec Rémi Buzine, journaliste chez Brut, et avec Édouard Boutet qui est chercheur et qui a d'ailleurs beaucoup travaillé sur la visibilité des violences policières. On l'entendait un peu dans la chanson d'Orelsan qui a précédé ce journal. Édouard, comment justement les réseaux sociaux ont participé à cette visibilité des violences policières?
Alors déjà, si on reste sur Facebook, le fait que les Gilets jaunes se soient organisés dans des groupes et donc aient créé des groupes pour leur organisation. Mais en fait, ces groupes-là sont restés après, une fois que les premières mobilisations ont eu lieu. Donc ça leur a permis de durer dans le temps, mais aussi, en fait, ça leur a offert un formidable espace d'expression où ils ont pu, en fait, mettre en commun une expérience vécue à différents endroits du territoire et donc se rendre compte par eux-mêmes, ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a un problème avec la police. Donc, il y a eu, ça, c'était quelque chose d'assez nouveau et d'assez unique pendant les Gilets jaunes, c'est le fait de publier énormément de selfies, en fait, des blessures qui ont été faites au visage.
Donc, de documenter, finalement, les violences policières, effectivement.
Voilà. Mais du coup, de documenter d'une manière particulière, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas trop. Et sur Twitter, la visibilité des violences policières, alors là, c'est énormément d'acteurs très différents qui se sont mobilisés, qui ont, pareil, publié des images. Donc, on est toujours avec ces images qui servent à documenter, servent à prouver ce qu'il s'est passé. Et donc, on est sur Internet, donc il y a une place extrêmement importante pour celles et ceux qu'on appelle les amateurs, donc des gens qu'on ne connaît pas, qui ont très peu de followers et qui vont quand même avoir des outils d'écriture, des outils pour partager du contenu. Et donc, ils vont être largement surreprésentés dans les catégories de personnes qui ont partagé des images de violences policières. Mais en fait, après, il y a aussi énormément de médias très différents qui sont extrêmement mobilisés sur la question. Des médias alternatifs comme Brut, des journalistes reporters d'images comme Rémi Buisine, comme Stéphanie Roy par exemple aussi, qui ont publié énormément d'images, qui ont réussi à trouver beaucoup de visibilité. Et puis, mine de rien, en fait, c'est que les médias traditionnels gardent en fait une place assez importante dans cette visibilisation. On a tendance à opposer médias sociaux d'un côté, donc les réseaux sociaux, l'automédiatisation, qui viendrait supplanter dans ce nouveau média, qui est tous ces espaces d'Internet, les vieux médias, donc la presse, la radio, la télévision. Mais en fait, non, au fil des années, ces médias-là se sont mis à jour, sont sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Twitter, où ils occupent une place extrêmement importante.
Et donc, vous voulez dire, pour revenir sur la question de la violence policière, c'est qu'effectivement, c'est peut-être les nouveaux médias, ou en tout cas les médias sociaux qui l'ont plus documenté, parce qu'il y a eu une multitude de ressources, de gens qui ont pu se filmer, se photographier, sans parler des journalistes comme Rémi. Et donc derrière, très classiquement, lorsqu'il y a un phénomène, ça fait une forme de caisse de résonance et les médias traditionnels s'en sont ensuite emparés pour les relayer.
Alors, pour les relayer, pour les interpréter également, parce que ça, c'est un des autres problèmes. C'est, est-ce que le problème est seulement de dire sur les réseaux sociaux, on parle des violences policières et dans les médias traditionnels, on n'en parle pas? Ou est-ce que le problème n'est pas également la manière dont on va en parler? Les Gilets jaunes font la une de l'ensemble des informations. Ils sont dans tous les médias. Le problème, c'est que les Gilets jaunes vont regarder ce que les médias disent sur eux-mêmes. Et quand il y a la question des violences, ils voient en fait qu'il y a un cadrage médiatique avec lequel ils sont en parfait désaccord, qui est axé sur les manifestants sont violents et la police ne fait que réagir et ne réagir dans le cadre légitime de ce qu'elle a le droit de faire. Et donc il y a ce vécu de nous vivons cela sur le terrain et nous voyons quelque chose qui n'a rien à voir dans les médias. Donc les médias sociaux, ils vont s'en servir justement pour diffuser leur contre-discours, justement pour diffuser leurs images, pour dire regardez ce que nous on vit, ça pourquoi ces images-là elles ne passent pas à la télévision par exemple.
Et alors c'est là où on a un changement aussi assez fondamental, Rémi Buisine, avec votre travail et les autres, hein, dans ce, on va l'appeler le journalisme connecté en immersion, c'est que traditionnellement on avait l'impression que le positionnement des médias traditionnels, même si ils sont aussi dans les cortèges ou plus près des cortèges, il y a toujours cette idée qu'ils sont plutôt du côté de l'institution, plutôt du côté finalement du système. Et vous, dans la perception, dans votre manière d'être au cœur des cortèges, déjà avec la souplesse des outils, est-ce que c'est pas ça qui a changé? C'est tout simplement le point de vue, c'est que vous êtes aussi à l'intérieur des cortèges, donc au plus près de ce qui peut se passer, et parfois donc à l'écart de ce que les médias traditionnels peuvent capter.
Oui, je pense que la souplesse des outils est pour beaucoup, et moi quand je me suis lancé sur le live, ça m'a toujours tenu à cœur de ne pas être sur un point fixe. C'est-à-dire de ne pas être là à filmer en statique pendant 30-40 minutes, mais d'être plutôt au cœur du cortège, de ce qui se passe, de montrer tout dans son ensemble, d'aller interroger des gens quand il y a des temps un peu plus calmes. Et si on parle justement des violences policières ou des violences commises par des manifestants, l'idée, voilà, de se trouver un peu au milieu de tout ça. Alors au milieu, on essaie de prendre un peu de, pour pas se retrouver à prendre des projectiles ou autre sur la tête. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer tout dans son ensemble. Donc c'est-à-dire que on peut prendre, je pense, le temps fort. C'était au moment du mouvement des gilets jaunes où on avait à la fois des gens qui commettaient des violences à l'égard des policiers, qui brûlaient des voitures, détruisaient des bâtiments et autres. Et puis de l'autre côté, il y avait aussi des policiers qui ont eu des gestes très violents, il y a eu des blessés très graves. On a pu aussi documenter le fait aussi qu'il y avait des unités de police qui n'étaient pas du tout formées au maintien de l'ordre et qui n'avaient rien à faire là. Et puis même de leur aveu, même après par la suite. Donc c'est cet intérêt-là, c'est justement que sur le direct, j'ai toujours voulu avoir une notion de mobilité qui est importante pour essayer de donner quelque chose qui soit représentatif de l'ensemble, avec un côté imparfait, parce qu'on n'arrive jamais à prendre l'ensemble totalement, mais en tout cas avec cette volonté-là.
Est-ce qu'on peut dire justement que vous avez documenté ce qui était une forme d'hors-champ médiatique traditionnel ?
En partie, oui, je pense. Après, elle est aussi, je pense, documentée, si on parle en dehors des médias, un exemple que j'aime bien prendre, mais Malik Oussekine, il y a 30 ans, imaginez la même chose aujourd'hui. On aurait 10 témoins sur les réseaux sociaux, on aurait 15 vidéos... On aurait les vidéos de surveillance qui auraient été récupérées par je ne sais quel journaliste 2-3 jours après. Et je veux dire, tout a changé aujourd'hui par rapport à ça. Je veux dire, il y a énormément de violences policières, par exemple, qui ont été documentées et où la manifestation de la vérité a été permise, non pas grâce à des journalistes, mais aussi grâce à de simples citoyens. J'ai cet exemple en tête, qui a aussi servi d'ailleurs après à des journalistes pour enquêter. C'est ce gilet jaune qui, le 16 novembre 2019, pour les 1 an du mouvement des gilets jaunes, va recevoir ce qu'on a appris après être un LBD Place d'Italie dans la tête. Et toutes les vidéos qui ont permis de reconstituer ça, c'était des lives faits par des militants, par des personnes qui étaient sur place, ou par des gens qui veulent faire ce qu'on appelle un journalisme citoyen, avec la définition qu'eux vont donner. Et toutes ces vidéos mises bout à bout ont permis au monde de pouvoir faire une enquête, sortir une enquête. Donc au final, toutes ces images liées aux nouvelles technologies, aux téléphones portables qui sont améliorés, la 4G, 5G, les réseaux sociaux qui sont arrivés, permet aussi pour les journalistes d'aller enquêter, d'aller chercher cette vérité-là, et puis ça peut aussi servir évidemment dans le cadre de l'enquête judiciaire qui a lieu derrière. Donc c'est toute une manne de données aujourd'hui qui est super intéressante et pour les journalistes, je peux prendre un exemple peut-être même en dehors des manifestations, on peut aussi contextualiser, mais ce qui s'est passé à la Défense il y a 2 semaines avec ces mouvements de panique, les réseaux sociaux qui s'enflamment.
Il y a eu un bruit effectivement, on ne savait pas d'où il provenait, tout ça a généré un mouvement de foule et on l'a vu ça sur les réseaux sociaux et donc effectivement ça c'était une panique.
Et donc on a ça, donc on a ce mouvement de panique, plein de gens qui vont dire c'est des coups de feu, c'est un attentat, et là on peut aussi faire un travail journalistique derrière, c'est justement cette contextualisation d'informations en arrivant sur place avec le direct et en donnant les éléments. C'est pour ça que je dis que tous ces éléments, ces images filmées par des témoins, le travail journalistique, les réseaux sociaux dans son ensemble, ça se complète, mais le travail journalistique, il est toujours important, intéressant.
Et le travail journalistique n'est jamais meilleur que lorsqu'il y a une multiplicité des sources, bien sûr. C'est ce que vous venez d'évoquer. Par contre, le fait d'être au cœur des manifestations, ça peut aussi donner ce genre de réaction.
Donc ouais, là c'est sur ces images ici en direct. Hein. Merci à vous, merci d'être là. N'hésitez pas à partager ce direct avec vos amis, avec tous ceux qui souhaiteraient être informés sur cette situation en cours à Paris. Je me présente, Rémi Buzine, journaliste de la rédaction de Brut. Et on suit comme chaque semaine ce mouvement des Gilets jaunes, le 8e samedi consécutif de mobilisation, dit donc l'acte 8, première journée de mobilisation de l'année 2019.
Voilà, des marques d'amour, d'affection, limite des fans. T'es le seul, Rémi, à nous comprendre. T'es le seul. Comment on préserve sa neutralité, si tant est qu'on veuille le faire, lorsqu'on est journaliste et lorsqu'on peut être assimilé aussi en étant à l'intérieur de ces cortèges, en aussi donnant à voir, on l'a dit tout à l'heure, des petits hors-champs médiatiques. Comment on arrive à la préserver, cette neutralité, et ne pas être assimilé comme étant quelqu'un qui va être militant et qui va documenter le mouvement?
Je me suis toujours mis en alerte dans la tête que ce qui était important, c'est le travail journalistique. C'est toujours ce que moi j'ai voulu faire, c'est de documenter ce qui se passe. C'est-à-dire que dès lors qu'il y avait des manifestants qui commettaient des actes violents, l'idée n'était pas de les passer sous silence, mais de montrer ce qui se passait. Et à l'inverse aussi, quand il y avait des actes violents qui étaient commis par des policiers, c'était de le montrer aussi. Les marques de reconnaissance et tout, évidemment, ça touche, ça fait plaisir, mais c'est pas pour ça que je fais ce travail-là. Moi, je suis arrivé dans ces manifestations pour montrer le contexte, pour montrer ce qui se passe. Après, pour avoir conversé justement avec les gens, ce qui leur plaisait à ce moment-là, c'était le live en fait. C'est-à-dire que en gros, moi je me souviens même d'un manifestant qui me disait, mais en fait, je te réponds pas à toi parce que t'es Rémi Buzine ou parce que t'es Brut, c'est juste parce qu'en fait t'es en direct et je sais que tu vas pas monter ce que je dis, et je sais qu'au moins, ce que je dis est diffusé en direct. Parce que la crainte qu'avaient beaucoup les manifestants dans le traitement médiatique, c'était de se dire, on voit un journaliste qui va filmer pendant 4 heures et qui doit en faire un 1 minute 30. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Quelles sont les 10 secondes d'interview qu'il va prendre une personne qu'il a interrogée pendant 5-6 minutes? C'était toute cette crainte-là que les manifestants pouvaient avoir, et qu'eux avaient un peu moins, avec moi, de par le live, mais je pense aussi de par d'autres personnes qui avaient peut-être moins de visibilité, mais qui faisaient le même travail et tout aussi bien. Et moi, je trouvais ça intéressant de pouvoir le documenter en direct. Et c'est vrai qu'il y avait ces retours dans ces manifestations où, à vrai dire, en fait, moi, au bout de quelques semaines, j'essayais même de pas être identifiable parce que je voulais justement éviter ce, enfin, des moments comme ça où il y avait des foules qui allaient venir vers moi, etc. Parce que sinon, enfin, je pense qu'en tant que journaliste, on ne doit pas devenir l'événement. C'est-à-dire, l'événement, c'est l'actualité, c'est l'information, c'est ce qui se passe. Donc, j'essayais d'être beaucoup moins identifiable, changer de casque, de tenue à chaque fois. Non pas que j'aimais pas discuter avec les gens, j'adore le contact humain, mais c'était important pour pouvoir être quelqu'un qui est au milieu d'une foule et que ma présence ne modifie pas la scène. Parce que on est juste un
vecteur, un média.
Pour être là, un média pour retransmettre, contextualiser, donner la parole. Et notre présence ne doit pas modifier le champ de ce qui se passe autour. Donc c'était très important pour moi de le préserver.
Ça, c'est effectivement dans la théorie, même si c'est pas forcément voulu. Mais on sait très bien comment une caméra peut aussi réinterpréter une scène. Artoise, justement, vous, en tant que journaliste indépendante, est-ce que vous vous considérez comme une militante? Est-ce que vous acceptez ce terme-là? Ou est-ce que vous aussi, vous essayez de préserver une certaine forme de neutralité, entre guillemets?
Bah déjà la neutralité, bon, c'est un peu la première chose qu'on apprend, c'est un mythe en fait, parce qu'à partir du moment où on décide de traiter d'un sujet plutôt qu'un autre, bah en fait on est déjà dans une certaine forme de subjectivité. Moi je pense que c'est pas du tout un problème, et je pense que justement ce qui plaît aujourd'hui aux gens et ce qu'ils viennent chercher quand voilà c'est des plateformes qui ont plus vocation à défendre du journalisme voilà citoyen, hein. Je pense à Twitch parce que c'est là où j'ai le plus l'habitude de travailler, c'est cette espèce de retour à une certaine forme d'authenticité. On en parlait dans les manifestations, hein, le fait de faire partie de l'événement en tant que journaliste, reporter et aussi en tant que citoyen, militant, etc. Mais il y a aussi dans le traitement, je sais qu'au piquet de stream, et moi j'ai l'habitude aussi de le faire sur ma chaîne, c'est voilà, d'analyser un petit peu ce que vont dire les médias, d'en avoir un recul critique. Quand je parle des médias, je parle des grands médias, hein, je parle des médias voilà, qui font les plus grosses audiences aussi, qu'on appelle un peu mainstream, voilà. Et voilà, d'apporter une sorte de recul critique. Et je pense qu'il est pas mauvais, parce que quand on voit Samuel Etienne qui a investi la plateforme, voilà, lui c'est pas du tout un militant, mais quand il va traiter des informations, il va aussi apporter ses connaissances, son point de vue. Et je pense que c'est pas du tout mauvais, parce que à partir du moment où il y a cette espèce de multiplicité des voix, eh ben on est dans un qui contrebalance en fait le fait que chacun va pouvoir aussi donner son avis, mais pas voilà pour dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien, mais pour dire bah en fait on peut le voir de plein de façons différentes. Le but, c'est pas de s'enfermer dans une actualité qui est tout le temps en fait avec voilà les mêmes visions, les mêmes personnes, etc. Quoi.
Mais Artoise, à partir du moment où au sein de Piquet Stream, vous essayez de collecter justement des fonds pour soutenir le mouvement, là, on a clairement un engagement qui est affirmé.
Oui, bah moi, de toute manière, quand je suis dans ce genre d'initiative, évidemment, qu'on est militant, et c'est pas du tout un gros mot. Après, voilà, c'est dans le cadre d'un travail. Quand on travaille au sein d'une rédaction, forcément, voilà, on respecte la ligne éditoriale. On va choisir des sujets qui peut-être vont moins mettre en avant cet engagement, pardon. Mais oui, là, dans ce cadre-là, je me considère plus comme une journaliste militante, mais c'est pas grave, c'est même plutôt positif en fait, parce que quand on est journaliste, qu'on a vocation à transmettre et à relayer des informations, il y a aussi cette idée de sensibiliser, de transmettre, et forcément il y a un travail qui peut être militant, surtout quand il s'agit de sujets aussi politiques et clivants que cela, quoi.
Et qui corrobore justement avec une notion maîtresse sur les réseaux sociaux qui est celle de l'authenticité, et là il y a une authenticité effectivement dans la démarche, dans la volonté et dans l'usage de ces technologies. On va continuer justement à parler non pas de technologie, mais ça en est pas loin, car la technologie irrigue la science-fiction et la science-fiction irrigue les chroniques de Marcus Dupont-Bénard qui nous a rejoint ce soir au studio. Bonsoir Marcus.
Bonsoir François.
Qui va nous parler ce soir de la science-fiction, d'un récit en particulier de science-fiction, un récit qui lui aussi se fait rebelle.
On parle souvent de la tradition dystopique en SF, on parle moins des personnages qui s'y rebellent. Et oui, Bienvenue à Gattaca par exemple, le célèbre film sur une société eugéniste, est aussi l'histoire d'un homme qui contourne le système. Je voudrais donc vous parler d'un roman de SF qui vient de sortir Paideia de la française Claire Garand. Et je le montre aux gens qui nous suivent sur Twitch, car on est une radio augmentée maintenant. Mais il y a par contre le futur dont on va parler est plutôt réduit parce que exit la Terre décimée par les catastrophes climatiques et les guerres. Il reste 10 stations autour de la Lune. Dans chacune d'entre elles, il y a une jeune fille génétiquement modifiée pour être surdouée physiquement, mentalement. Ces 10 enfants ont un rôle prédéfini façon servante écarlate. Elles doivent repeupler l'humanité sur la Lune. Elles sont censées porter en elles des embryons à la chaîne. Elles n'ont pas le choix, mais elles sont embrigadées pour percevoir ça comme un rôle naturel et comme un honneur. La narratrice est d'autant plus dans un contexte dystopique qu'elle est rejetée par les 9 autres jeunes filles. Moqueries et humiliations sont au rendez-vous pour elle.
Mais Marcus, d'où part le souffle de la révolte sociale dans ce roman de science-fiction ?
De la narratrice. La narratrice a d'autres rêves. Traverser les nuées de comètes et de planètes pour aller explorer les étoiles, découvrir le cosmos. Elle rejette profondément le rôle qui lui a été structurellement assigné. Cesse de résister, accepte cet honneur comme je l'ai accepté, lui assène une autre jeune fille. Mais non, notre narratrice tient bon, elle reprend son droit à choisir, elle défie tout ce que la société lui impose. Cette rébellion est d'abord décrite par l'autrice comme un sentiment intérieur d'émancipation extrait.
Après le dessert, elle nous a fait entonner l'hymne des stations rempli de conquérants de l'humanité qui rempliront l'univers par milliers. Je me suis époumonée dans l'espoir de retrouver la chaleur qu'il me procurait d'habitude et l'élan qui raffermissait ma volonté. Ma voix sonnait juste à mes oreilles, mais faux dans mon cœur.
L'héroïne de Paideia reprend en fait le pouvoir sur son corps, sur sa vie, dans un monde futuriste dont, comme souvent, certaines structures font penser au présent. On rappelle que l'accès à l'IVG est aujourd'hui un droit humain fondamental menacé. Claire Garand propose une science-fiction où la poésie est dans la révolte intime de la narratrice. Voilà une belle façon de semer des graines de possible. Le roman est publié chez La Volte, maison dont le nom est déjà évocateur de révolte. C'est chez eux qu'on trouve Alain Damasio ou encore Sabrina Calvo, des romans où la science-fiction est un véhicule de mouvements sociaux eh bien, qui contestent justement les codes établis.
Merci beaucoup Marcus Dupont-Bénard, et je suis sûr que votre chronique a résonné aussi pour Artoise et toutes les préoccupations et aussi la mobilisation féministe à laquelle elle participe également. Édouard Boutet, justement, puisqu'on parle de culture populaire, de récits, de science-fiction, d'imaginaire qui peut aussi être un véhicule de la mobilisation, est-ce qu'il est aussi convoqué sur les réseaux sociaux? Qu'en est-il de ces imaginaires, de ces récits? Certains nous disent qu'on est dans une société avec des imaginaires en panne, d'autres nous disent qu'on manque d'utopie. Est-ce que justement cela fait partie des contenus que l'on peut voir sur les différents réseaux?
Dans le cadre des mobilisations en particulier?
Oui, dans le cadre des mobilisations. Parce qu'on a besoin de les mobilisations, c'est aussi les mobilisations de terrain, et puis parfois celles qui peuvent s'asseoir, s'adosser justement à des récits. Alors je sais que ça n'a pas été spécialement votre domaine de travail, mais c'était juste pour essayer d'avoir...
Alors, je sais que ce sont des choses qui se font. Je sais que il y a eu un journal de l'imaginaire qui a été écrit par des gilets jaunes. Alors, c'était très intéressant parce que le but était de le partager au plus grand nombre. Donc, il y avait un espèce de récit fictionnel qui était publié, alors pas quotidiennement, mais en tout cas au moins une fois par semaine, et avec voilà ce fantasme de la destitution de Macron qui pouvait trouver place dans ce récit fictionnel qui donc était partagé par les gilets jaunes. Justement, c'est un des rares exemples auxquels j'ai été confronté. C'est vrai que c'est pas forcément ce que j'ai pu constater d'après mes recherches, ce qui veut pas du tout dire que ça n'existe pas.
Mais déjà, merci de nous avoir fait connaître l'existence de ce journal imaginaire tenu par les gilets jaunes qui essayent d'entrevoir justement un avenir qui correspond un peu mieux à leurs attentes et à leurs préoccupations. Cette émission se termine. Dans quelques jours, ce sera le 7 mars. Rémi, vous serez évidemment sur le terrain.
Bien sûr, on sera en alerte et présent dès le matin, puis tout au long de la journée, sur Paris, mais aussi en région, parce que c'est important de faire vivre le mouvement en dehors de Paris. Donc on sera en direct sur le TikTok de Brut et sur l'application Brut pour faire vivre ça en continu, en montrant ce qui se passe. Tension aussi s'il y en a, mais essayer d'avoir une vue d'ensemble. On est sur des directs qui, en général, durent 4 à 5 heures en moyenne, donc je pense que ça va être le cas aussi mardi. Donc on va essayer de recharger un peu les batteries ce week-end pour être en forme mardi.
Artoise, du côté de votre collectif composé de bénévoles, je le rappelle, il va falloir, j'imagine aussi, recharger les batteries pour planter votre picket stream le 7 mars qui, j'imagine, reprendra bien ses droits.
Oui, tout à fait. On a prévu de relancer là avec le début de la grève, le retour de la grève. Évidemment, on sera présent dans les manifestations et évidemment sur notre chaîne Twitch.
Eh bien voilà, les rendez-vous sont pris pour vivre justement les mobilisations sociales autrement, avec ces alternatives que représentent les réseaux sociaux qui sont en mutation constante. De Periscope racheté par Twitter, aujourd'hui disparu, à TikTok qui est maintenant mobilisé et investi par Rémi Buzyn via le canal de Brut, en passant bien sûr par Twitch et son Picket Stream. Twitch où nous sommes également, nous aussi, chaîne de France Culture. Donc je vous encourage à nous suivre sur la chaîne Twitch de France Culture pour, pourquoi pas, poursuivre cette émission sur ce canal-là, car nous sommes contraints à un format et celui-ci s'arrête. Le meilleur des mondes se termine pour ce soir. Je remercie vivement à la préparation de cette émission Juliette Devaux, accompagnée d'Héloïse Robert, notre stagiaire à la réalisation ce soir. C'était Perré Legras à la technique, Ruben Carmazin, et à la technique vidéo, Nicolas Delmas. Restez sur l'antenne de France Culture ou rejoignez-nous sur la chaîne Twitch. Vous voyez, la vie, le choix, c'est l'alternative sur de multiples canaux, toujours au service des idées.